pas comprendre l'Holocauste tant que l'on considère l'antisémitisme comme un exemple du racisme en général et tant que l'on conçoit le nazisme seulement en termes de grand capital et d'état policier bureaucratique terroriste. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'Holocauste et de l'antisémitisme moderne? Ni le nombre des hommes qui furent assassinés, ni l'étendue de leurs souffrances. Ce n'est pas une question de quantité. L'Holocauste se caractérise par un sens de la mission idéologique, par une relative absence d'émotion et de haine directe, et, ce qui est encore plus important, par son manque évident de fonctionnalité. L'extermination des Juifs ne devait pas seulement être totale, elle était une fin en soi. L'extermination pour l'extermination, une fin exigeant la priorité absolue.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la destruction des Juifs d'Europe. Et après une première émission qui était consacrée, disons, au processus factuel de destruction des Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie de 1933 à 1945, on va maintenant passer dans cette émission à la question des causes immédiates et lointaines de la destruction des Juifs d'Europe, et particulièrement de la destruction physique, de l'extermination à partir de 1941, et donc du débat historiographique et théorique autour de cette question. Donc dans une première partie de cette émission, on évoquera le débat plutôt d'historien autour de la question de la décision, du processus de décision de l'extermination des Juifs, notamment en 1941, à quel point est-ce que c'était prévu de longue date ou est-ce que c'est lié à des circonstances particulières. Et dans une deuxième partie, on se posera la question plus largement des racines un petit peu plus lointaines et plus profondes de la destruction des Juifs d'Europe, la question donc de l'antisémitisme, de la spécificité de l'Allemagne, de la modernité, de la bureaucratie, du capitalisme. Et puis, on discutera également des questions de comparaison, de spécificité de la destruction des Juifs d'Europe, etc. Et donc, pour parler de ce sujet, nous sommes avec Paul et Johannes, qui sont des bons connaisseurs de ces questions, parce qu'ils s'y sont intéressés à partir notamment d'une critique radicale du capitalisme, et également de préoccupations autour de la question de l'antisémitisme aujourd'hui et de l'antisémitisme en Allemagne historiquement. Donc bonjour Paul et Johannes.
Bonjour.
Alors, donc peut-être pour commencer, il faudrait dire que dans cette première partie, il y a pas mal d'enjeux en fait à cette question. Il y a évidemment la question de l'antisémitisme, donc qui est une question qui est toujours d'actualité. On verra pourquoi dans la deuxième partie. Il y a également la question de la comparaison, de l'exceptionnalité ou non de la destruction des Juifs d'Europe au regard des autres massacres de masse. Et on essaiera d'apporter un peu de clarté dans la confusion et aussi dans ce qu'on peut appeler la concurrence des mémoires. C'est-à-dire que tout le monde voudrait dire que ça c'est du génocide, ça c'est de l'Holocauste, pour apporter un peu de spécificité, parce que si tout est Holocauste, plus rien ne l'est, et ça n'a plus grand intérêt d'utiliser ce concept. Il y a, également, on parlera de la question aussi de la spécificité de l'Allemagne, de la spécificité de l'antisémitisme nazi. Voilà. Alors, peut-être pour commencer, Paul, est-ce que tu pourrais du coup nous parler un petit peu de... Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de revenir un peu sur ce débat d'historien? Parce que en réalité, il y a eu des positions dans le débat historien qui ont été extrêmement problématiques, outre le négationnisme le plus vulgaire qui nie l'extermination des Juifs, dont on a parlé dans la première émission, celui de Faurisson par exemple. Il y a aussi des historiens qui ont tenu des positions qui ne sont pas directement négationnistes, mais qui sont extrêmement problématiques.
Oui, donc tout ça, ça commence en Allemagne, en tout cas dans le débat des historiens que tu as évoqué, ça commence en 1986. Et ensuite, il va y avoir, je sais pas, 20 ans de discussion sur cette question entre ce qu'on va appeler les intentionnalistes et les fonctionnalistes, donc comment on analyse la destruction des Juifs d'Europe, comment ça s'est fait. Mais le contexte dans lequel ça a commencé, c'est celui qui va déclencher ce débat d'historien, c'est un historien bourgeois très connu allemand qui s'appelle Nolte, Ernst Nolte. Et c'est quand même intéressant de revenir un peu dessus, parce qu'il a été très connu, il a fait un grand travail sur l'analyse sur ce que c'est le fascisme. Mais bon, il faut inscrire son analyse dans l'Allemagne d'après-guerre. Là, il faut quand même commencer par dire deux mots sur la non-dénazification de l'Allemagne. Donc après 1945, après la défaite de l'Allemagne, on va assister tout de suite à une volonté. Je veux dire, le nouvel ennemi, c'est l'Union soviétique. On voit qu'énormément de spécialistes, des nazis importants, ils vont être récupérés par exemple par des services de renseignement américains, ou Werner von Braun, par la NASA, ou des gens comme ça. Parce que le nouvel ennemi, c'est l'Union soviétique. Et qui c'est qui connaît en 1945 très bien l'Union soviétique? Ben c'est la SS, c'est les Allemands, parce qu'ils ont fait 4 ans de guerre en Union soviétique. Donc tout de suite, ils deviennent utiles et on va s'en servir dans un retournement d'alliance. Et en conséquence aussi, on ne va pas s'occuper sérieusement d'un travail ni juridique ni historique de la dénazification de l'Allemagne. Même s'il y a, évidemment, il y a les grands procès, il y a les procès de Nuremberg, il y a quand même beaucoup de documentation qui sortent. Il y a un gros tas de documents qui sont publiés au moment du procès de Nuremberg, parce qu'il y a le gros procès connu des dirigeants, mais après il y a aussi les procès, ce qu'on appelle les procès suivants, quoi, le procès des médecins, des Einsatzgruppen, des industriels. Il va y avoir d'autres procès après 1960, le procès d'Auschwitz. Il y a quand même des choses qui se font. Mais globalement, il faut quand même dire que l'Allemagne, elle est. Si on regarde dans le détail, il faut dire que la dénazification ne se fait pas, si on veut le dire rapidement, quoi. Je crois que c'est Hannah Arendt qui dit qu'en 1960, deux tiers du personnel dans la magistrature allemande était dans la magistrature pendant la guerre. C'est le même personnel, c'est les mêmes gens, il y a une continuité. Un autre historien qui a travaillé là-dessus, il va raconter que des unités entières de police, par exemple toute la police du ghetto de Varsovie, elle va se retrouver à être toute la police de la circulation et de la ville de Munich. Il y a vraiment des transferts d'unités qui vont se faire et qui vont rester en place. Et c'est ça l'ambiance de l'Allemagne après-guerre, qui va mener par exemple aussi qu'un chancelier comme Brandt, qui est un des rares politiciens à avoir fui l'Allemagne pendant la guerre, qui était en exil, donc qui n'a pas participé à la guerre, qui n'était pas un nazi, quand il va devenir chancelier, il va être obligé quasiment politiquement de prendre comme ministre des Affaires étrangères ou vice-chancelier Kiesinger, qui était un nazi, et bon, qui est connu en France parce que c'est lui qui s'est pris une baffe par Beate Klarsfeld, publiquement justement pour dénoncer les nazis au pouvoir. Donc tout l'appareil juridique, l'appareil politique, par exemple le parti, assez étonnant, le parti libéral allemand, le FDP, il est truffé de nazis. Par exemple, dans les années 70, ils vont proposer Aschenbach pour devenir commissaire européen, et c'est un nazi. Et finalement, il va avoir trop de pression, ils vont pas pouvoir le maintenir. Mais voilà, autant l'appareil politique que juridique, que policier, tout ça, c'est truffé de nazis. On voit par exemple l'ambiance, quelqu'un comme Heidegger, on a parlé un peu de lui, jamais il doit s'expliquer sur son passé, parce que l'ambiance, elle n'est pas à devoir se confronter sérieusement avec le passé nazi.
Oui, d'ailleurs là-dessus, on renvoie aux émissions, aux notes de lecture qu'on a fait sur le cas d'Heidegger, qui est effectivement un cas particulièrement intéressant.
Mais ça serait intéressant de prendre quelques biographies juste pour montrer ce parcours, ou alors des gens il y a des procès, des gens en 49 qui vont se faire condamner à 20 ans de prison, en 51 c'est commué à 10 ans, et puis en 52 ils sont libérés. Il y a des cas comme ça, il y en a énormément, et puis ils finissent dans la haute administration. Les gens, par exemple, les spécialistes pour la déportation et le travail eugénique fait sur les tziganes, ces gens-là, par exemple, c'est eux qui vont servir comme experts dans les tribunaux allemands dans les années 70 pour juger du oui ou du non de paiement de réparation à des familles tziganes. C'est le même genre, c'est ceux qui ont fait la politique nazi-eugéniste sur les tziganes qui vont, 30 ans plus tard, être les spécialistes devant les tribunaux. Donc c'est ça l'ambiance dans laquelle on est en Allemagne après-guerre. Et du coup, c'est intéressant de dire deux mots sur Nolte, parce que c'est vraiment un historien que spontanément, comme ça, on ne va pas dire c'est un nazi, c'est pas un faurisson, c'est pas un négationniste bas de gamme, quoi. C'est quelqu'un reconnu comme un historien sérieux, bourgeois. Mais en fait, sa thèse sur l'Allemagne, ça va être, ouais, c'est une certaine forme quand même de révisionnisme ou de négationnisme, dans le sens qu'il va dire que le nazisme allemand est une réaction au bolchevisme. Donc en fait, suite à la menace bolchevique, l'Allemagne va s'armer, tout le nazisme allemand va être presque comme une légitime défense contre le bolchevisme. Et il va aller aussi loin de dire que Auschwitz, c'est une copie des goulags, que l'origine, c'est les goulags, et la copie, c'est les camps d'extermination allemands. Ce qui est évidemment totalement faux historiquement, et qui pose aussi le problème de la comparaison, de dire qu'il faut parler du goulag, tout ce qui s'est passé, mais ce n'est pas la même chose que la destruction systématique du judaïsme.
C'est intéressant ce que tu disais par rapport à cette ambiance de l'Allemagne. Finalement, on peut dire que Ernst Nolte, il cristallise un petit peu la conscience et la pensée ou le refus de penser justement la destruction des Juifs d'Europe en Allemagne d'après-guerre. Puisque finalement, on pourrait dire que c'est quasiment le discours de la Wehrmacht, en fait. C'est-à-dire que finalement, voilà, l'Allemagne ne fait que réagir au péril bolchevique. Et d'ailleurs, c'est une des choses, on en avait parlé dans la première partie de l'émission, mais qui va justifier énormément la participation de l'armée allemande à la destruction des Juifs d'Europe, à l'extermination. Justement, le fait qu'en fait, c'est une guerre contre les bolcheviks, comme les bolcheviks sont juifs, entre guillemets, eh bien, on a le droit de les détruire. C'est une guerre à mort. Même si, en réalité, historiquement, on se rend compte que c'est complètement farfelu. L'URSS n'avait pas du tout l'intention d'attaquer, n'a jamais eu l'intention d'attaquer l'Allemagne nazie. D'ailleurs, c'est l'Allemagne nazie qui a fini par l'attaquer. Et il n'y avait pas, par exemple, sur la question de la prise du pouvoir en 1933, il n'y avait pas du tout de péril révolutionnaire en Allemagne. Clairement, on ne peut pas dire que le nazisme était un mouvement directement contre-révolutionnaire. Il n'y avait pas de menace révolutionnaire en Allemagne en 1933.
Donc voilà, ça c'est un peu l'ambiance dans laquelle ce débat d'historien en Allemagne va commencer en 86 avec Nolte qui prend ces positions-là. Et énormément de réactions, si on regarde, il y a eu des centaines d'articles dans les journaux de réponses, de contre-réponses. C'est un débat qui a duré des années. Et après, là, dans ce débat, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été travaillées sur une analyse du nazisme. Donc nous, dans cette émission, on voulait un peu plus s'attarder sur des positions intéressantes, mais qui ont essayé de comprendre l'extermination des Juifs dans son ensemble. Donc on va peut-être quitter un peu les positions négationnistes ou révisionnistes qui nous apportent pas de réponses intéressantes à ces questions-là, quoi. Donc petit à petit s'est cristallisé un débat entre deux analyses sur le moment d'extermination qui ont été mis sous deux noms, donc les intentionnalistes et les fonctionnalistes, qui ont une pensée différente sur comment l'extermination en soi s'est mise en place. Parce que les deux courants reconnaissent à partir de 1942 l'extermination systématique de tous les Juifs. Il n'y a aucun d'eux qui est dans une négation de ce fait historique. Là où ils divergent, c'est peut-être que c'est sur différents points. Le premier point, ça pourrait être le poids de l'idéologie. Quel rôle a joué l'idéologie? On pourrait dire que les intentionnalistes, ils vont mettre un grand accent sur l'importance de l'idéologie. Ils vont dire, voilà, Hitler, en 1919, il a déjà dit, il faut quitter l'antisémitisme de sentiment, il faut arriver à un antisémitisme rationnel. Le programme de Hitler, du NSDAP en 1920, dans le programme, il y a marqué qu'il faut rendre l'Allemagne Judenrein, éloigner tous les Juifs de l'Allemagne. C'est une chose qui va être faite, ça va être appliqué. Donc les intentionnalistes, ils vont faire comme une linéarité entre le discours de Hitler, des dirigeants du parti, et la politique qui va être mise en place, qui va mener jusqu'à l'extermination. Donc c'est pour ça qu'on parle d'intentionnaliste, parce qu'il y a une intention, dès le début, peut-être pas de tuer tous les Juifs, mais en tout cas d'expulser tous les Juifs. Et dans l'expulsion, il y a, comme on avait déjà dit dans la première émission, par exemple dans le projet Madagascar, quand il parle d'expulser tous les Juifs vers Madagascar, il y a clairement aussi une idée génocidaire dedans, parce qu'on dit on va les expulser au Madagascar pour que cette race s'éteigne doucement. Donc ça c'est l'idée des intentionnalistes, c'est de dire... Effectivement, il a fallu ensuite des conditions historiques spécifiques, parce que probablement en temps de paix, ça n'aurait pas pu être fait. Il faut plein de conjonctions historiques pour rendre cette chose possible, mais l'idée, il y a dès le départ un antisémitisme qui veut éloigner, séparer et probablement détruire les Juifs. Donc ça, c'est l'idée des intentionnalistes, bon, qui ont beaucoup de matériel à l'appui. L'autre courant qui s'est beaucoup opposé à ça, les fonctionnalistes, c'est plutôt des gens qui vont dire, évidemment, Hitler, il est profondément antisémite, personne va nier son idéologie, mais ils vont dire, cette idéologie, elle n'a pas de prise dans la réalité, c'est pas elle qui est, elle n'est pas agissante, évidemment, c'est le fond de pensée de Hitler, mais dans la réalité, elle n'est pas tellement importante. C'est plutôt une radicalisation à fur et à mesure qui va se faire. Évidemment, ils vont aussi dire l'Allemagne est antisémite foncièrement, quoi. Il y a un antisémitisme profond dans la population. Mais c'est plutôt une radicalisation. Mommsen, qui est un des grands représentants de ce courant, il va parler d'une radicalisation cumulative. C'est-à-dire, c'est une combinaison de petits pas, de petites choses, des initiatives locales, de situations qui vont faire que on se trouve dans un cul-de-sac et que la seule sortie, c'est d'aller vers l'extermination. Il y a une certaine côté assez plausible dans cette explication aussi, de dire, voilà, on voulait expulser les Juifs de l'Allemagne, on a expulsé les Juifs de l'Allemagne vers la Pologne, vers le gouvernement général, dans les ghettos. Ensuite, la guerre en Union soviétique, elle n'est pas gagnée rapidement comme c'était prévu, donc on ne peut pas expulser les Juifs plus à l'Est, donc on va les détruire. Ça, c'est grosso modo des fonctionnalistes qui vont aussi dire que le poids de Hitler, il est beaucoup amoindri par rapport à la pensée des intentionnalistes. Forcément, chez les intentionnalistes, le rôle de Hitler est très important, est prédominant. C'est lui qui va impulser chaque pas de radicalisation. Et chez les fonctionnalistes, par exemple, Mommsen, il va parler d'une dictature faible. Il va dire le dictateur, en fait, c'est un personnage faible. Le fonctionnement du régime nazi, c'est ces différentes structures administratives qui vont être en concurrence. Il y a d'un côté le parti avec ses structures, il y a les ministères, la bureaucratie, le ministère des Affaires étrangères, la bureaucratie, il y a l'armée, il y a l'économie, et que tous ces grands corps vont être en concurrence, et que c'est comme ça que, par exemple, Hitler, il va donner un avis général, et chacun de ses appareils va essayer de l'appliquer, d'y arriver le plus radicalement possible et le plus fortement, parce que chacun veut arriver au pouvoir, donc c'est une lutte de pouvoir entre ces différentes fractions. Et c'est cette concurrence et lutte de pouvoir qui amène une radicalisation parce que chacun veut être plus proche, veut prendre sa part du pouvoir.
Oui, c'est-à-dire d'une certaine manière que, un petit peu comme dans la concurrence capitaliste, on est poussé à aller toujours plus loin. Là, il y aurait une espèce de concurrence des bureaucraties qui ferait que pour garder la mainmise sur tel secteur, il y aurait effectivement une volonté de pousser au plus loin, bon, que ce soit par exemple le ministère des Affaires étrangères ou l'Office de sécurité du Reich, des acteurs très importants de la destruction des Juifs d'Europe dont on a parlé dans l'autre émission, il y aurait une espèce de radicalisation progressive.
Alors pour les fonctionnalistes, voilà, il y a pas de plan. En fait, c'est ça qui est très très important pour eux. Pour les fonctionnalistes, Mommsen, il va dire ça. Un autre fonctionnaliste très connu, c'est Martin Broza, qui était le responsable de l'Institut d'histoire sociale de Munich. Pour eux, il y a pas de plan. Donc, c'est plutôt, il n'y a pas une volonté au début d'exterminer les Juifs, mais c'est une chose qui va se radicaliser petit à petit par un mélange des politiques locales sur place et une concurrence entre les différentes strates du régime nazi, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, probablement, plus personne se dit clairement fonctionnaliste ou clairement intentionnaliste. Je pense que les gens les plus intéressants aujourd'hui ont d'une certaine manière mélangé un peu les deux. Moi, je trouve ça intéressant de pointer les points forts et les points faibles de chacune de ces analyses, quoi. C'est vrai que l'approche intentionnaliste, elle a le problème de personnifier très fortement le régime nazi, ce qui est évidemment problématique en théorie d'histoire, quoi, de penser l'homme comme un personnage comme très déterminant, parce que moi, spontanément, j'aurais quand même beaucoup plus tendance à penser que les choses sont possibles parce qu'ils sont dans un contexte social, historique, bien plus profond que juste une personne, quoi, même si.
Oui, justement, le risque de cet excès de personnalisation, c'est un excès de psychologisation. C'est qu'il y a eu tout un tas de travaux historiques qui ont essayé de faire une espèce de psycho-histoire d'Hitler, de psychobiographie.
Oui, il y en a beaucoup sur sa jeunesse, sur plein de qui sont assez stupides, quoi, qui sont vraiment pas satisfaisantes. Oui, il y a aussi là, récemment un livre qui a fait beaucoup de bruit, ça s'appelle L'extase totale sur la drogue dans le. En fait, qui dit que Hitler c'était un toxico, qu'il était camé par ses médecins en permanence avec des amphétamines, je ne sais pas plus quelle drogue, et également toute production monstrueuse pour toute l'armée. Je pense que d'un côté, en plus, il y a des choses qui sont vraies. C'est probablement vrai en partie, mais ça ne peut pas expliquer un courant plus profond comme le fascisme et l'antisémitisme en Allemagne. Quoi. Même si c'est là-dedans aussi, il y a forcément des éléments qu'il ne faut pas rejeter. Donc ça, c'est un peu le problème. C'est en tout cas un des problèmes chez les intentionnalistes d'avoir une personnification très forte du pouvoir. Après, par contre, moi, ce que je trouve très problématique chez l'approche fonctionnaliste, c'est-à-dire qu'eux, ils vont quasiment abandonner l'idéologie. C'est-à-dire, on comprend pas très bien du coup pourquoi des choses se font. Même, on pourrait même se dire ça de Hilberg, qu'on a présenté très longuement dans notre dernière émission et qui a fait un travail absolument remarquable, quoi, d'histoire. Mais pourquoi toute cette bureaucratie s'acharne tellement à décider si un juif marié à une arienne, etc., dans la deuxième génération, s'il a encore le droit de faire ci et cela. Pourquoi toute cette bureaucratie se met en travail? Il faut aussi chercher quelque chose dans la motivation, parce que chaque bureaucratie ne l'a pas faite. Et on arrive aussi dans des problèmes quand on veut comparer un pays à l'autre, parce que pas mal d'historiens vont dire, par exemple, si on se mettait aujourd'hui en 1900, en arrière, dans le temps, dans quel pays est-ce qu'on risquerait d'avoir... Dans quel pays est-ce qu'on pensait en 1900 qu'il y aurait peut-être une extermination des Juifs? C'est peut-être pas l'Allemagne qu'on y pensait au premier, mais peut-être plutôt la France avec l'affaire Dreyfus. Donc il faut se poser la question...
Ou la Russie.
Ou la Russie, oui. La France et la Russie. La Russie avec les pogroms, la France avec l'affaire Dreyfus. Quoi. La thèse très fonctionnaliste, elle pose des problèmes par rapport au poids de l'idéologie. Quoi.
Il y a une sorte de minimisation des spécificités idéologiques du nazisme, alors qu'en réalité, il n'y a pas besoin de personnaliser pour dire qu'il y a un rôle de l'idéologie. C'est-à-dire qu'on peut dire, au lieu de dire il y a eu l'extermination des Juifs parce que Hitler était antisémite, en fait, on peut dire qu'il y a eu l'extermination a été rendue possible au moment où elle a pu se faire, elle a été faite parce que l'antisémitisme était généralisé en fait dans la société allemande et notamment dans la haute bureaucratie et dans la bureaucratie. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, voilà, à évoquer. Et peut-être que là-dessus, il faudrait parler du livre de Christopher Browning sur le 101e bataillon, qui peut être peut-être intéressant justement sur ces questions de comment est-ce que les acteurs très concrets, les acteurs qui étaient vraiment, qui devaient exterminer les Juifs, comment est-ce qu'ils ont réagi à ça et comment est-ce qu'ils ont pu faire ça?
Ouais, c'est effectivement un livre très intéressant de différents points de vue, aussi par rapport à l'ambiance en Allemagne d'après-guerre qu'on a évoqué au début, parce qu'en gros le système d'autodéfense immunitaire des Allemands après-guerre pour mettre à distance les régimes nazis, c'était toujours de dire c'était des ordres, on ne pouvait pas faire autrement. C'est vraiment le credo que je pense que tout le monde qui connaît des Allemands de cette génération, c'était on ne pouvait pas faire autrement. Et donc ce livre de Browning, il est intéressant là-dessus parce qu'il met quand même un peu en question cette analyse. Donc il va analyser, hein, il va prendre, c'est une histoire très partielle, quoi. Il va analyser un bataillon de police, donc c'est ça le titre du livre, le 101e bataillon de police. Et ça c'est intéressant parce que c'est un bataillon de réservistes, ça veut dire que ce n'est pas des jeunes de 18 ans qui sont envoyés à l'Est, mais c'est des gens qui ont 40 ans, 50 ans, je crois, de la région de Hambourg, généralement, en gros, quoi. Ça, c'est intéressant déjà parce que, quand même, une différence plus facile de manipuler idéologiquement des jeunes à 18 ans, je pense, que des gens qui ont déjà vécu pas mal d'autres choses, quoi. Donc, eux, ils vont être envoyés en Pologne pour participer à ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah par balle. Donc, pour, à l'arrière de la Wehrmacht, aller dans les villages, les petites villes, ramasser tous les juifs et les tuer par balle. Bon, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce livre. Il y a une chose intéressante, c'est que le commandant de ce bataillon, il va, la première fois où il doit faire ça, donc il doit aller dans une petite ville, et il va dire devant toute sa troupe, il va dire, voilà, nous avons un ordre très dur et horrible à faire. Mais on doit le faire, pour l'Allemagne c'est important, Donc il va d'un côté dire que c'est très dur, mais en même temps, il ne se distancie pas du tout du contenu, quoi, de l'ordre, de devoir fusiller tous les juifs dans cette ville. Mais il dit, ceux qui ne veulent pas participer, ils peuvent sortir du rang. Et donc, je crois qu'il y a à peu près 700 personnes dans ce bataillon, et je crois qu'il y a une douzaine qui sortent du rang et qui participent pas. Il leur dit aussi qu'ils ne seront pas punis, qu'il n'y aura pas de persécution, qu'ils ne vont pas être désavantagés, et tout ça, qu'ils vont être juste affectés à d'autres tâches. Et ce qu'il va réellement aussi faire, ils vont être affectés à garder les camions au lieu d'aller dans ce village, aller d'une maison à l'autre, chercher les juifs qui se cachent partout, de les tuer déjà dans les maisons, ensuite de les sortir, ceux qui ne se tuent pas dans les maisons, de les sortir en dehors de la ville, de les faire creuser leur fossé et de leur mettre une balle dans la tête à bout portant et de les enterrer après. Parce que c'est comme ça que se passe la Shoah par balle dans ces villes. Donc ces 12 qui sont sortis du rang, ils participent pas. Et ce commandant, il va faire ça tout au long des actions anti-juifs, il va faire ça à chaque fois, il va le répéter. Et en gros, c'est les mêmes personnes et le même pourcentage qui ne va pas participer. Donc Browning, à partir de là, il va commencer à réfléchir plusieurs choses. D'abord, il va constater que ces gens, ils n'ont pas de punition, ils ne vont pas être stigmatisés activement, en tout cas. Donc, il se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils participent les autres? Pourquoi tout le monde participe? Parce que du coup, l'idée de dire c'était des ordres, il fallait qu'on participe, c'est pas si évident. Parce qu'il va, par la suite, il va dire qu'il n'a trouvé aucune archive militaire où des soldats allemands ont été punis pour un refus d'ordre par rapport à la Shoah. Il dit, il n'y a pas de trace écrite. Peut-être qu'il y en a eu peut-être que des gens, ils ont été. Peut-être qu'il y a eu des cours martiaux improvisés contre des gens qui ont refusé de participer à la Shoah. Mais en tout cas, il n'y a aucune trace écrite dans les archives de l'armée. Alors que sur d'autres, sur le cas classique de refus, soi-disant refus devant lâcheté devant l'ennemi, là on a fusillé dans la marine, dans l'armée, partout. L'Allemagne a fusillé énormément de ses propres troupes, comme dans toutes les guerres. Pour faire régner la discipline, pour que les gens ils aillent au front. Ça s'est fait jusqu'en avril 45, encore, jusqu'au bout, quoi. Il y a des exemples de la marine, des gens, encore un mois avant la fin, on met trois officiers ensemble, cour martiale, décision, lâcheté devant l'ennemi, il y a quelqu'un est fusillé. Donc ça s'est fait massivement, mais apparemment, en tout cas, il n'y a aucune trace écrite, donc ça n'a en tout cas pas dû exister à grande échelle. Par rapport à la Shoah. Donc effectivement, ça pose la question, cet argumentaire permanent, on était obligé, on n'avait pas le choix, il faut y mettre des guillemets, il faut en tout cas le relativiser. C'est pas si évident que ça, parce que ça se peut très bien que les nazis savaient très bien que participer à la Shoah était problématique pour une partie des gens et que on voulait pas trop y faire non plus de la publicité. Parce que ça, c'est aussi un des éléments, la Shoah, vraiment la partie destruction des Juifs, c'est quand même, le régime dirigeant a quand même essayé de le cacher en grande partie, quoi. Donc peut-être qu'on ne voulait pas commencer à fusiller ses propres troupes qui ne participent pas. Donc ça, c'est déjà un côté très intéressant dans ce livre. L'autre côté, il va se poser la question pourquoi il y a aussi peu de gens qui ne participent pas quand on les met devant le choix. Et lui, là, il va développer un peu des choses qui sont des hypothèses, mais qui sont intéressantes à réfléchir. Il va parler de la pression du groupe. Que quand tout un groupe de 700 personnes ont un ordre à faire, tel chieur qui sort du rang, qui dit que tu ne veux pas y participer, il y a une stigmatisation, même si elle n'est pas légale ou matérielle, quoi. Et puis là, lui va aussi prendre comme exemple, sans dire qu'il y adhère complètement à 100%, mais les travaux de Milgram, donc ça va être un peu une de ses pistes de réflexion pour pourquoi les gens y participent, parce que visiblement, l'ordre tout seul ne suffit pas à expliquer, quoi.
Et là, en fait, on pourrait aussi penser à une autre explication. D'ailleurs, même si ce n'est pas forcément des explications qui se contredisent totalement, mais c'est le fait que s'il y a eu la possibilité pour tous ces soldats de se dire « on y va », il n'y a pas que l'esprit de corps, et probablement qu'en fait, il y a aussi un antisémitisme très profond dans la société allemande, qui date d'ailleurs d'avant l'époque des nazis, on en reparlera dans la deuxième partie de l'émission, mais qui, évidemment, en 41, est quand même, enfin, je veux dire, ça fait quand même 8 ans de propagande antisémite très très forte, voire avant, parce qu'il y a aussi les campagnes électorales du parti nazi. Donc ça semble être une explication, au moins pour... il fallait qu'il y ait un antisémitisme extrêmement fort dans la société allemande, pour que psychologiquement ce soit possible de massacrer massivement des civils, tout comme par
Bah
exemple.
ça va par exemple être l'argument de Goldhagen, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais lui en gros il va dire les gens, si les gens ils ont participé, c'est que c'était des bourreaux volontaires. Ça va être son terme, c'est que l'Allemagne est profondément traversée par un antisémitisme éliminatoire. Ça va être son analyse à Goldhagen, qui est beaucoup de gens ont contesté, mais lui c'est sa réponse à cette question. Pourquoi les gens ils ont participé? Parce que, évidemment pas tous, mais la grande majorité y adhérait.
Oui, et c'est pas une hypothèse complètement farfelue. Peut-être que ce qui peut questionner dans cette hypothèse, c'est le fait que ce soit extrêmement ancien, etc., etc. Mais on peut dire au moins que circonstanciellement, pendant la période nazie, surtout au bout d'un certain nombre d'années de nazisme, il y avait un antisémitisme extrêmement fort dans la population, qui était tellement fort que effectivement, les soldats considéraient comme une tâche militaire comme une autre. De participer à l'extermination des Juifs.
Qui un tout petit peu remet en question, en tout cas, il faut tenir compte de ces éléments historiques qui rentrent qui sont problématiques. On dit quand même grosso modo que l'élection des nazis au pouvoir, parce qu'ils deviennent le premier parti électoral quoi, en 1933, les historiens s'accordent à dire que ce n'est pas sur le programme antisémite qu'ils ont été élus, qu'ils sont profondément antisémites, mais que ce n'est pas ça qui leur fait gagner l'élection, que c'est promettre du travail, faire régner l'ordre, c'est surtout ces deux points-là. Et la nostalgie, et le retour, disons, la nostalgie par rapport à la Première Guerre. Mais c'est pas si évident que ça, un antisémitisme latent profond, mais à ce moment-là, apparemment, en tout cas électoralement, ça aurait pas été très déterminant en 33.
Bien sûr, et puis après, il y a aussi la question de la participation au pogrom de novembre, donc qui a avant été appelé la Nuit de Cristal, donc en novembre 1938. Effectivement, il y a des historiens qui ont montré qu'il n'y avait pas une si grande adhésion populaire à ces pogroms. Après, ce qui
Sur
n'empêche.
ça, on a déjà parlé un peu l'autre fois. C'est vrai qu'il y a une réponse. Une réponse possible, c'est que dire disons, la population moyenne n'aime pas les pogroms parce qu'ils veulent que les choses soient faites dans l'ordre. Parce que le pogrom, ça fait des ordres, ça fait beaucoup de casse, de matériel. Voilà. On peut dire les Allemands sont très ordonnés aussi. Les choses, il faut qu'ils se passent dans la règle.
Et on peut dire aussi quand même qu'il y a eu peut-être aussi des effets réels de la propagande nazie, surtout en temps de guerre, parce que on n'en a pas encore parlé, mais il y a quand même des discours d'Hitler qui disent que c'est les Juifs qui ont finalement déclaré la guerre à l'Allemagne, que, et là c'est un mécanisme qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres génocides, on en parlera dans la deuxième partie, il y a une accusation que finalement ce sont les Juifs qui veulent exterminer les Allemands, et que du coup il faut faire une lutte à mort contre les Juifs. Et
Oui,
puis.
même Nolte, on a parlé de Nolte au début. Nolte, à un moment, il dit ça. Il dit Hitler, il avait raison après 33 d'enfermer les Juifs parce que les Juifs, ils veulent attaquer l'Allemagne. Vraiment. Et Hitler, il va le dire texto plein de fois, quoi. Son discours connu en 39 devant le Reichstag, c'est ça. Il dit mot par mot, il dit si la juiverie internationale redéclare une guerre à l'Allemagne, redéclare parce que c'est déjà eux qui sont responsables de la première guerre. S'ils redéclarent une guerre à l'Allemagne, cette fois-ci, on va les exterminer. C'est ça son discours en 1939, c'est ce qu'il dit. 42, il va le dire plein de fois. Il va dire la juiverie a commencé la guerre. Pour lui, la juiverie, c'est Washington, c'est Moscou, même un peu l'Angleterre.
Oui, bien sûr. Et là, on voit que, et ça, on en parlera plus longuement dans la deuxième partie de l'émission, mais il y a une dimension d'apocalypse, de conspiration aussi des Juifs qui veulent détruire l'Allemagne. Et
Oui, on n'a pas parlé des protocoles de Sage de Sion, quoi.
bien sûr.
Bon, c'est quand même un instrument de propagande monstrueux et il y a eu des dizaines et des dizaines d'éditions. Je veux dire, c'est quelque chose qui circule énormément, quoi.
Et on comprend du coup que des soldats allemands qui auraient été, ne serait-ce que, enfin, qui auraient reçu de tels discours depuis des années, envisager comme une tâche militaire même particulièrement importante l'élimination des Juifs, surtout qu'on est dans le contexte en 1941 d'une guerre totale contre le bolchevisme. Pour le coup, l'idéologie anti-bolchevique est aussi extrêmement forte dans la société allemande. Et donc, ça légitime, même aux yeux des officiers supérieurs, le fait que la Wehrmacht participait à des opérations mobiles de tuerie. Donc, en fait, il y avait plein d'autres. Il y avait des raisons, comment dire, idéologiques de participer aux tueries mobiles et pas simplement des raisons de conformité de groupe. C'est une explication qui, voilà, qui est, je pense, partiellement valable, mais on ne peut pas simplement s'en tenir à ça, sinon, effectivement, on est dans une vision. Et ça, je pense que c'est un des gros problèmes pour moi du fonctionnalisme, c'est que ça aboutit quasiment à une forme de déresponsabilisation, en fait. C'est-à-dire, finalement, les gens n'ont fait qu'obéir aux ordres ou à des mécanismes psychologiques sommaires de la conformité du groupe, alors que, bon, il y avait quand même une idéologie. Après, évidemment, l'idéologie, c'est pas les simples soldats qui la sécrètent, mais
Ouais, et puis
il y a une forme d'adhésion quand même.
il faut voir dans le détail si l'idéologie de Hitler et des dirigeants nazis, est-ce qu'elle est exactement la même que celle de la population ou quelle est cette interaction? Je pense que quand même, il y a une certaine interaction et quand même un rôle assez important des dirigeants nazis, quoi.
Oui, non, ça c'est clair.
Et c'est quand même intéressant à voir, mais il y a un débat entre ces deux courants, donc intentionnaliste et fonctionnaliste. Il y a une question sur laquelle ça se focalise, et c'est assez intéressant de voir que même 60 ans après, il n'y a toujours pas de réponse claire là-dessus. C'est la question de quand c'est que l'ordre fut donné de détruire les Juifs. Et c'est vrai que ça peut paraître, peut-être les gens qui n'ont pas étudié cette question, ça peut leur paraître étrange qu'on ne sache pas le définir exactement, mais encore aujourd'hui, il n'y a aucun historien qui peut dater très exactement où, par quels moyens et quand l'ordre fut donné de détruire tous les Juifs. Grosso modo, pour les intentionnalistes, ça veut dire les gens qui veulent dire qu'il y a une continuité entre 1920 et la destruction des Juifs dans l'idéologie nazie, tout le monde va dater la date en 1941, après, au moment avec l'attaque de l'Union soviétique. Certains vont le dater plutôt en préparation déjà de l'attaque de l'Union soviétique, ça veut dire que les intentionnalistes vont dire au moment où Hitler prévoit d'attaquer l'Union soviétique, donc ça c'est en 40 qu'il commence déjà à le préparer, et ça se fait en 41. Donc c'est dans le cours de cette préparation, quelque part, l'idée et l'ordre a été donné de détruire tous les Juifs. Et les fonctionnalistes vont plutôt dire c'est beaucoup plus tard, c'est une fois l'attaque commencée, l'armée allemande n'arrive pas à gagner la guerre avant l'hiver, ce qui était prévu, c'était dans les plans nazis, c'était on commence au mois de juin et avant l'hiver on a gagné la guerre. Et donc pour les fonctionnalistes, ils vont dire quand ça commence à bloquer, quand l'armée n'avance plus sur Moscou, l'ordre va être donné de détruire tous les Juifs parce qu'on voit que la guerre va pas se terminer et que Hitler va pas remettre à la fin de la guerre et de déporter tous les Juifs. Parce qu'à un moment donné, c'était ça dans la propagande de dire après la guerre, on va déporter tous les Juifs à l'Est. Donc voilà, c'est un débat entre les historiens et voilà, d'un côté les nazis, ils ont détruit beaucoup de données notamment sur la politique de destruction, quoi. On en a déjà parlé dans la première émission, hein. Il y a eu des commandos qui étaient chargés d'aller effacer les traces, quoi, en Pologne du génocide. Donc c'est un problème technique d'historien de dater le moment d'ordre exact, quoi.
Est-ce qu'il y a également un débat entre fonctionnalistes et intentionnalistes sur la question de la conférence de Wannsee ou pas?
Je crois pas. Je crois. En gros, soit Wannsee aujourd'hui, c'est en janvier 42. Normalement, ça aurait dû avoir lieu en décembre 41. Mais comme l'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis après Pearl Harbor et tous ces événements qui s'enchaînent, en tout cas pour différentes raisons, cette conférence elle est repoussée à janvier 42. Je ne crois pas qu'il y a des grands débats entre les différents courants d'historiens. Je pense que l'idée grand public de Wannsee, elle est un petit peu fausse, parce que souvent on dit c'est là que fut décidée l'extermination des Juifs, alors qu'il y a déjà 1 million de Juifs qui ont été exterminés avant Wannsee. Donc ça a déjà été largement entamé, en fait, ça a déjà été décidé. Qu'on peut dire pour Wannsee, c'est que c'est là que fut décidé qui c'est qui a la main mise sur la destruction des Juifs. C'était plus une question politique intérieure de l'appareil nazi, et que c'est là que le Reichssicherheitshauptamt a assis son pouvoir face au ministère des Affaires étrangères, face à l'armée. C'est eux qui ont dominé cette conférence. Mais cette conférence, elle était très courte. Ça, je crois que ça durait 1 heure et demie. Ils ont beaucoup discuté de statuts juridiques des juifs, des demi-juifs, des Mischling. Bon, c'est aussi, oui, la planification,
Coordination.
la coordination, la généralisation, tout ça. Mais la décision, c'est clair qu'elle était prise avant. Et c'était déjà largement entamé avant, quoi. À partir du mois d'août 41, donc déjà 6 mois avant Wannsee, on assiste au massacre indéfini, hommes, femmes, enfants, juifs, quoi.
Et justement, pour finir peut-être sur cette question du
Mais
débat.
après Wannsee, c'est sûr, c'est un rôle important de coordination, d'organisation. Je veux dire, c'est là, il y a Eichmann et tout ça, il est très important dans ça.
Et justement, par rapport à ce débat entre fonctionnalisme et intentionnalisme, voilà, quelle est la synthèse, par exemple, qu'a pu proposer quelqu'un comme Friedlander, justement, de ces deux positions?
Il change un tout petit peu de position au fil des ans, mais lui, c'est quand même quelqu'un qu'on devrait mettre dans le côté intentionnaliste. C'est-à-dire, et en parenthèse, je trouve aussi que c'est quelqu'un qui a vraiment des positions, c'est un historien très intéressant sur toute la question de la Shoah. Je trouve que si aujourd'hui il faudrait conseiller à quelqu'un de lire une grande monographie historique sur la destruction des Juifs, je leur conseillerais de lire celle de Friedlander, je pense.
Donc l'Allemagne nazie et les Juifs.
Oui, qui est en deux tomes, un de 33 à 39 et un de 39 à 45. Il s'oppose à Hilbert, par exemple, voilà, sur cette question du poids de l'idéologie. Il va reprocher à Hilbert d'avoir une histoire trop, d'une certaine manière trop lisse, comme si elle fonctionnait tout seul, sans moteur plus profond. Lui, il vient très clairement du côté intentionnaliste. Je pense qu'il se revendique toujours plus ou moins de ça, mais après, il y a aussi des phrases où il dit « Comme je me suis beaucoup inspiré de tous les travaux des fonctionnalistes qui ont apporté énormément de choses très importantes dans le déroulement de la Shoah, sur les initiatives locales, sur la concurrence entre les différents appareils », aujourd'hui, il dit qu'il ne peut pas se considérer pleinement comme intentionnaliste. Mais il pense qu'il a fait un peu une synthèse. Pour lui, le Hitler, il a un poids très important. L'antisémitisme de Hitler, de Heydrich, de Himmler est très déterminant. Il va dire que le peuple allemand est profondément antisémite et que c'est là-dessus. Il va dire que ça, c'est un peu comme le terreau sur lequel il a fallu quand même quelqu'un comme Hitler pour radicaliser, pour pousser plus loin. Il va refuser, alors là, il faudrait l'avoir devant soi pour demander vraiment qu'il nous explique mieux, mais il refuse d'un côté le concept de Goldhagen de dire que l'Allemagne est traversée par un antisémitisme éliminatoire, parce que ça c'est un concept que Goldhagen va beaucoup utiliser. Il va dire que Goldhagen dit l'antisémitisme des Allemands, c'est un antisémitisme éliminatoire, il faut éliminer les Juifs. Friedlander, il refuse un peu ce concept, et il va forger un autre concept qu'il appelle l'antisémitisme rédempteur. Il refuse aussi un petit peu la lignée directe du mouvement Völkisch vers les nazis. Il ne le refuse pas, mais il dit que l'antisémitisme des nazis est fortement imprégné par le christianisme germanique. Donc il y a ce côté de rédemption dedans, et assez religieux. Donc pour lui, l'antisémitisme rédempteur, c'est effectivement... il y a un côté, oui, il faut libérer l'humanité des Juifs, il y a un côté rédempteur là-dedans. Je trouve que c'est très proche de l'antisémitisme éliminatoire, le sien. Il y a un côté assez proche, parce que pour lui, pour arriver à la rédemption, il faut se débarrasser des Juifs. Peut-être pas les tuer, mais...
C'est ça, il y a l'absolution de la déportation, de l'extinction lente, etc., est peut-être, effectivement, peut-être son concept, en tout cas, est peut-être un petit peu plus proche des différentes solutions envisagées par les nazis avant 1941.
Il y a un essai intéressant de lui que je trouve vraiment qui vaut le coup de lire aussi, c'est où il prend un peu les différentes analyses générales et il donne son avis dessus. Donc en gros, il parle de il le dit dans les années 2000, il y a trois grands chemins d'analyse du nazisme. Une, c'est ce qu'on appelle le Sonderweg, là ça veut dire la spécificité allemande. Donc voilà, comme Goldhagen, comme ces gens-là. Lui, il va être d'accord en partie avec ça, mais il dit que ce n'est pas non plus satisfaisant parce que voilà, il y a d'autres antisémitismes en France, en Russie, les pogroms. Après, il va étudier, il va parler sur les théories du fascisme, qui vont dire théoriser qu'est-ce que c'était le fascisme et essayer d'expliquer aussi à partir de ça la destruction des Juifs. Et lui, il dit que c'est surtout là que ça bute. Donc il remet en question, même, il est assez réticent, il dit... Difficile de faire une théorie générale du fascisme parce que justement on n'arrive pas à expliquer la destruction des Juifs.
Bah oui, parce que le fascisme italien.
Le fascisme italien n'a pas du tout cette composante-là. Ils ont introduit des lois anti-juifs, mais ils n'ont pas du tout voulu ni participer activement à la destruction systématique des Juifs. Il n'y a pas ça. Le côté national est plus important. Il dit par exemple dans le fascisme italien, le but du fascisme italien, c'est sur l'image de l'Empire romain, c'est un État fort, c'est une puissance étatique forte, quoi. Alors que pour Friedlander, le but du fascisme allemand, c'est de détruire les Juifs. Donc il met fortement en question les théories de fascisme. Et la troisième ligne qui va un peu étudier, critiquer, c'est les théories de totalitarisme. Et là-dedans, il va mettre Hannah Arendt et en partie aussi Hilberg. Et il ne va pas être d'accord avec cette approche non plus, parce qu'il va dire que la théorie du totalitarisme, c'est le but d'un État totalitaire, c'est d'être totalitaire, de garder le pouvoir, c'est d'avoir le pouvoir. Le but suprême, c'est le pouvoir, d'asseoir son pouvoir sur des gens et de le garder dans la théorie du totalitarisme. Et le noyau idéologique est en fait pas important. Il y a, dans la réflexion sur ce que c'est un totalitarisme, l'idéologie, elle n'est pas importante. Parce que on voit, Hannah Arendt va comparer le totalitarisme bolchevique au totalitarisme nazi, justement en disant que l'idéologie, à la limite, elle est pas très importante dans une approche sur le totalitarisme. Et donc lui, il ne va pas être d'accord avec ça, parce que il va dire, dans le totalitarisme, on veut le pouvoir, et effectivement, on va terroriser, par exemple, des populations, même arbitrairement, une ou l'autre partie d'une population, pour terroriser les autres et garder le pouvoir. Et il dit ça, ça correspond pas du tout au nazisme. Au nazisme, dans le nazisme, détruire les juifs, c'est pas un moyen pour un but. Détruire les juifs, c'est le but. Et c'est pas pour prendre le pouvoir qu'on détruit les juifs. C'est à la limite, le nazisme allemand, il veut un pouvoir fort, mais c'est pour détruire les juifs. Le but final, c'est détruire les juifs. Donc ça, c'est son analyse. C'est pour en quoi il va critiquer les approches, disons, de totalitarisme. Et je pense que c'est assez intéressant, là, aussi par rapport au livre de Hannah Arendt sur Eichmann et tout ça. Voilà, où pour faire très très rapidement, on peut penser qu'elle s'est d'abord un peu trompée et fourvoyée, justement en pensant que Eichmann, c'était que le fonctionnaire, qui n'était pas mu par une idéologie antisémite profonde, mais que c'était plutôt cette image du fonctionnaire zélé qui n'a fait que son travail, quoi, indépendamment du contenu du travail, quoi.
Alors, même qu'on sait par des enregistrements qui ont été faits par justement des clubs de sociabilité nazis en Amérique du Sud après la Seconde Guerre mondiale, et qui ont ensuite été retrouvés par les historiens et les historiennes, que en fait Eichmann était un nazi assez virulent et fanatique, et que il a joué aux bureaucrates zélés, juste voilà, qui faisaient bien son boulot. Et qu'il a joué, c'était ça sa ligne de défense, ça avait été très très bien pensé et planifié, c'était pas non plus c'était pas un imbécile.
Et pour revenir encore une fois, donc encore un des autres courants qui va étudier aussi dans cet article, c'est sur la théorie du fascisme. Il va prendre d'un côté la théorie du fascisme de droite, mais il va aussi étudier la théorie du fascisme de gauche et la critiquer aussi, qu'elle est pas mal développée en RDA après-guerre, qui va analyser la destruction des Juifs. Il va parler de deux courants, un courant qui va l'analyser sur un point de vue d'utilité économique. Bon, ça, on a aussi déjà longuement parlé, et ça, je pense que Hilberg, déjà, il démontre assez bien que ça tient pas la route, que même si, évidemment, il y a eu spoliation des biens, évidemment, il y a eu travail forcé de Juifs dans une période où il y avait une grande pénurie de main-d'œuvre, mais on voit tout au long de la guerre, en tout cas à partir de 1941 jusqu'à 1945, chaque fois qu'il fallait faire des arbitrages entre est-ce qu'on garde 10 000 juifs de plus pour travailler même dans les usines de l'armement de la Wehrmacht, ou est-ce qu'on les extermine? C'est toujours au détriment de ceux qui ont dit il faut qu'on les garde en vie parce qu'on a besoin d'eux. C'est toujours le côté
antisémite,
antisémite racial éliminatoire qui a pris le dessus dans toutes les décisions. Et puis il y a plein d'autres exemples que de l'improductivité. Je veux dire, si on veut faire travailler des gens d'une manière économique efficace, il faut un tout petit peu les nourrir aussi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel ils sont. Il y a eu des gens dans le régime nazi qui disaient dans les ghettos, il faut doubler les rations alimentaires si on veut qu'il y ait une production dans les usines et les ateliers. S'il y a un taux de productivité un peu acceptable, il faut qu'on augmente la nourriture. Et disons, grosso modo, la fraction SS ou plus fanatique qui disait, mais il est hors de question, on ne va pas les nourrir en plus. Donc le taux de productivité de la main-d'œuvre esclavagisée, elle est extrêmement basse, quoi.
Et là, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que là, on voit bien le danger pour la question de la destruction des Juifs d'Europe, d'une analyse étroitement matérialiste et réductionniste. Bon, déjà parce qu'elle ne fonctionne pas, on ne peut pas comprendre la destruction des Juifs d'Europe pour des raisons purement économiques. À la limite, on peut comprendre l'aryanisation, encore que ça provoque quand même une désorganisation de l'économie, une concentration qui favorise pas forcément la concurrence et la productivité. Donc déjà, même l'aryanisation, bon, on peut quand même émettre des doutes sur le fait que d'un point de vue capitaliste, c'était le truc le plus rationnel au monde. Surtout dans certaines économies qui ont été occupées par l'Allemagne et des économies nationales, et qui en fait étaient vraiment très dépendantes effectivement des entreprises tenues par des juifs.
En Hongrie, par exemple, ils ont laissé longtemps au pouvoir les juifs aux manettes d'entreprises, parce qu'ils avaient besoin de ces entreprises. Mais c'est des choses partielles, quoi.
C'est ça. Et puis après, bon, pour la phase, à la limite, voilà, le travail forcé. Par contre, pour la phase d'extermination, là, vraiment, on sort complètement d'un cadre économiciste. Et c'est là où on arrive sur une question qui me paraît qu'on abordera plus longuement dans une émission qu'on consacrera au négationnisme et au révisionnisme. Mais c'est la question finalement qu'il y a des analyses marxistes, comme par exemple celle du pseudo-Bordiga, donc on sait maintenant que c'est un militant bordiguiste. Donc, le bordiguisme, c'est on va dire une forme de dissidence du léninisme italien, voilà. Eh bien, voilà, dans Auschwitz ou le Grand Alibi, il y a cette thèse que finalement, il y a juste eu, voilà, principalement des camps de concentration et des camps de travail forcés. Et quand on parle d'élimination, c'est la liquidation d'une fraction de la petite bourgeoisie allemande par une autre. Enfin, voilà, des motifs, voilà, une espèce de réduction à
Très
l'extrême.
fonctionnaliste quoi, comme interprétation, et ça va très loin. Et justement, ça, effectivement, c'est important de dire que c'est la porte ouverte au négationnisme, vu que la partie folie idéologique, elle n'est pas explicable matériellement, on va commencer à la nier, l'existence quoi, d'extermination.
C'est ça, à partir du moment où l'extermination des Juifs, les chambres à gaz et tout, c'était pas rationnel économiquement, eh bien donc
Ça n'a pas existé.
ça n'a pas existé. Et c'est là où effectivement on verra ça dans la deuxième partie, mais qu'il y a des interprétations du capitalisme comme celle de la critique de la valeur ou celle de Moïse Postone qui permettent donc, parce qu'elles ont une définition aussi plus large du capitalisme, peut-être de pas tomber dans une forme de réductionnisme extrême. Voilà, qui laisse aucune place, notamment à l'idéologie. Bon, alors après, il y a des marxistes qui, comme par exemple Tim Mason, qui, pour expliquer l'extermination des Juifs, vont invoquer le fait que dans le national-socialisme, il y a une autonomie de la politique. C'est-à-dire que globalement, le nazisme, c'est plus, a plus des objectifs politiques et l'économie passe après, ce qui est intéressant. Mais le problème, c'est que bon, ça explique rien, quoi. C'est juste un moyen, en fait, de sauvegarder la pureté de la théorie marxiste en disant non, mais là, c'était la politique, donc ça explique que c'était pas rationnel économiquement. Mais bon, en fait, bon, c'est gentil, mais ça explique rien, quoi.
Oui, il y a aussi quelques historiens de gauche qui ont fait de l'analyse, disons, de classe, en disant, voilà, on terrorise les juifs et c'est pour rendre docile la classe ouvrière. C'est-à-dire, vous allez voir ce qui vous arrive si vous faites pareil. Mais grosso modo, ça aussi, ça tient pas la route parce que l'extermination était faite en secret. Si c'était ça le but, de montrer qu'on va terroriser la population ou le prolétariat, la classe ouvrière, à travers la destruction des juifs, dans ce cas-là, il aurait fallu la faire visible. Alors que les Allemands, ils ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions dans la période de l'extermination, d'essayer de la garder secrète. Ça s'est pas fait en Allemagne, par exemple. Sinon, on aurait pu le faire, je sais pas moi, à côté des endroits où il y a un prolétariat qui risquerait de se révolter. Mais non, toute la destruction a été faite en Pologne et plus à l'Est.
Oui, c'est vrai que là, on voit que comment est-ce que les interprétations marxistes sont extrêmement limitées par rapport à ça. Et justement, on va du coup aller vers la deuxième partie de cette émission. Justement pour s'interroger sur, on va commencer par ça, sur la question de l'antisémitisme nazi, de l'antisémitisme structurel, qui nous semble être peut-être la clé de compréhension, au moins, disons, des racines profondes de la destruction des Juifs d'Europe, même si on voit qu'au niveau, même si on a vu dans cette première partie d'émission que les causes, disons, plus immédiates, hein, de la solution finale sont plus complexes. Et donc on va passer à un intermède musical.